Voilà une semaine déjà que les organisations humanitaires sont dans la tourmente. La grande ONG britannique Oxfam est accusée d'avoir fermé les yeux sur de nombreux cas de recours à la prostitution en Haïti et au Tchad et doit faire face à des allégations de viol au Soudan du Sud et de violences sexuelles au Libéria. Et dans la foulée, l'organisation française MSF, qui emploie quelques 40 000 personnes dans le monde, a révélé cette semaine 24 cas d'abus et de harcèlement sexuel déclarés en 2017, cette fois sur des employés de l'organisation. Bonjour Ronny Breuil.
Bonjour.
Bienvenue dans ces matins du samedi. Vous êtes médecin, ancien président de MSF de 82 à 94, directeur de recherche aujourd'hui à la Fondation MSF. Vous êtes professeur également à l'Université de Manchester au département Crise et Conflits et essayiste. Votre dernier livre vient de paraître aux éditions textuelles dans la collection Conversation pour demain. Il s'intitule « Guerres humanitaires, point d'interrogation, mensonges ». Et intox. Quand cela fait comme vous quelques 40 ans qu'on travaille dans l'humanitaire, est-ce que ça fait mal d'entendre des histoires comme celle-là ?
Oui, ça fait mal, mais enfin, ça ne me prend pas par surprise. D'abord, je voudrais préciser que pour ce qui concerne Médecins Sans Frontières, maison à laquelle je me rattache, mais en l'occurrence, c'est pas un plaidoyer pro domo, c'est un constat. En ce qui concerne Médecins Sans Frontières, il ne s'agit pas d'une surprise. Enfin, Médecins Sans Frontières a mis en place depuis maintenant près d'une quinzaine d'années, enfin depuis une douzaine d'années précisément, une cellule chargée d'enregistrer les abus, d'enquêter sur la réalité de ce qui se passe lorsqu'il y a une plainte pour abus et prendre des sanctions, enfin remettre un dossier donc aux autorités de MSF, voire aux autorités de police ou de justice du pays concerné, de manière à faire cesser ces agissements. MSF a pris conscience de l'importance de ce char de traiter ces cas à la suite de plusieurs problèmes qui s'étaient posés sur le terrain, essentiellement d'ailleurs à l'intérieur du personnel de MSF, donc c'est pas exactement une situation comme ça, des abus de pouvoir qui pouvaient prendre une allure de harcèlement sexuel ou bien simplement des abus de pouvoir, simplement si j'ose dire, des abus de pouvoir d'ordre, disons, de manière ordinaire. Nous ne voulons pas tolérer cela dans les rangs de MSF, et donc cette cellule a été mise en place pour ça. Donc il ne s'agit pas de quelque chose qui aurait été dissimulé et puis ensuite révélé au public. Cela étant donc ma réaction sur ce genre de choses, les organisations humanitaires, comme toute organisation humaine, sont faillibles. Les êtres qui travaillent peuvent soit flancher à un moment, soit être des gens un peu tordus qui utilisent une organisation pour se livrer à leur passion mauvaise. Il y a toutes sortes de cas de figure. L'important dans une organisation, c'est qu'il y ait des voies de recours. C'est qu'il y ait un canal qui permette à une victime ou quelqu'un qui s'estime maltraité de remonter vers la hiérarchie sans craindre de sanctions. Donc une voie de recours qui permette de contourner l'autorité locale, l'autorité de l'organisation locale, pour aller vers l'autorité centrale et déclencher cette enquête. Ça, c'est absolument primordial.
Parce qu'on ne peut pas l'éviter. On pense naïvement, c'est vrai, hein, Ronny Breuil, peut-être naïvement, je vous pose la question, que le milieu humanitaire échappe par nature aux dérives de ce genre. Au contraire, il y est pas plus sujet, mais autant sujet que n'importe quelle autre organisation.
Oui, enfin, je ne dirais pas au contraire, mais nous y sommes sujets. Vous savez, quand une organisation emploie plusieurs milliers de personnes, il est inévitable que quelques-unes d'entre elles se comporte mal. C'est, je pense, inéluctable. Il faut donc prévoir d'emblée des canaux pour que ce genre de mauvais traitement trouve une issue correcte.
Dans l'affaire Oxfam, ça va même plus loin, puisque la directrice de la prévention interne, qui l'a été de 2012 à 2015, Hélène Ivens, a dénoncé l'existence, je la cite, d'une culture d'abus sexuels au sein de certains bureaux. Très loin,
oui, j'ai lu ça, ça m'a beaucoup surpris. Alors je me demande s'il s'agit d'une espèce de fuite dans la surenchère ou bien s'il s'agit d'un constat réel. Écoutez-moi, ça fait quand même maintenant plusieurs décennies que j'évolue dans ce milieu. Il n'est pas toujours ragoûtant, je l'ai souvent critiqué également. Mais là, il me semble qu'on va au-delà de ce qui se passe. Je n'ai pas compris cette réaction.
Manifestement, en Grande-Bretagne, les choses sont prises très très au sérieux. Peut-être même pour certains, c'est l'occasion de faire le procès de l'humanitaire. On l'a vu par exemple, après le scandale Oxfam, en titre de l'hebdomadaire anglais The Spectator, qui est plutôt conservateur, et qui s'est demandé cette semaine si l'aide humanitaire fait plus de mal que de bien, soulignant que cette affaire a au moins le mérite d'ouvrir un débat sur ce qu'ils appellent les conséquences des activités d'un secteur qu'une auréole de vertu protégeait jusque-là d'un regard instigateur. Le procès de l'humanitaire,
Oui, mais l'Angleterre est de ce point de vue-là un pays très paradoxal. C'est le pays qui a vu la naissance d'institutions humanitaires dès le début du siècle ou au milieu du siècle, telles Save the Children, Oxfam, Christian Aid, qui sont des géants de l'aide internationale avec des milliers de personnes, des budgets considérables et qui bénéficient d'un soutien très important, qui sont enracinés dans la société britannique et donc qui tirent leur force aussi de cet enracinement. Donc ça c'est la réalité, c'est une partie de la réalité. L'autre partie de la réalité c'est que ces organisations sont sous le feu régulièrement de milieux ultra-conservateurs qu'on aurait appelé en France à une certaine époque quartiéristes, c'est-à-dire voulant faire passer leur pays avant le reste du monde, ce qui se comprend, mais qui veulent ignorer le reste du monde au profit de leur pays, ce qui se comprend moins. Et dans ce contexte très polarisé, que nous ne connaissons pas en France, en tout cas, il y a bien entendu des gens qui sont adversaires de l'aide internationale en France, mais pas à ce point-là. C'est beaucoup plus polarisé en Angleterre. Et à cela, il faut rajouter que Oxfam se rattache, disons, à la filière politique travailliste. Oxfam est une organisation traditionnellement de gauche, qui a connu de grandes oscillations, mais je passe là-dessus. Et il n'y a pas vraiment de surprise à constater que ce sont des journaux ultra-conservateurs qui tirent sur Oxfam à boulet rouge, parce qu'en tirant sur Oxfam, ils tirent également sur les travaillistes qui sont en posture, comme on peut l'imaginer, extrêmement faible. Donc, on tire sur les ambulances également.
Vous en faites un conflit politique, Ronny Broman, mais en
non,
même
c'est
temps...
C'est aussi un conflit politique.
C'est aussi un conflit politique, d'accord. Mais en même temps, ce que dit, bon, par exemple, ce journal des spectateurs, à savoir que les sommes faramineuses qui sont dédiées au développement des pays dits du Sud depuis 50 ans n'ont fait que maintenir leur économie sous perfusion, qui conclut que l'aide ne fait pas grand-chose pour promouvoir la paix, la sécurité, les échanges commerciaux et la bonne gouvernance, mais qu'au contraire, elle constituerait un obstacle à la gouvernance efficace, donc qui va très loin, ressemble quand même, et là on sort du cadre strictement britannique, ressemble quand même d'assez près à un film, le film de Raoul Peck en 2013, qui s'intitulait Assistance mortelle, et qui portait justement, on y revient, sur l'aide internationale à Haïti en 2010. Donc ça n'est pas seulement, effectivement, politique. Il y a quand même un vrai problème, très souvent, de déboucher de cette aide internationale.
Ah, mais...
C'est là aussi un débat récurrent dans l'humanitaire.
Mais bien sûr, enfin, c'est plus qu'un débat, c'est devenu un objet d'étude, enfin, personnellement, dans les cours que j'ai fait à Sciences Po, que je continue de faire aujourd'hui à Manchester, je soulevais ce genre de problème. Les enjeux politiques, économiques, symboliques de l'aide ne sont pas minces. Chacun fait l'expérience dans sa vie quotidienne que aider quelqu'un, ça n'est pas facile. Ça peut susciter toutes sortes de réactions tout à fait inattendues. Alors quand un groupe aide un autre groupe, une collectivité, un bout de société, dans une situation généralement de crise, on imagine que les effets de l'aide sont parfois imprévus, parfois contre-productifs, et donc tout cela fait partie d'un objet d'étude. Nous découvrons pas ça maintenant. Cela étant, sur le film de Raoul Peck, j'ai eu l'occasion d'en parler directement avec Raoul Peck dans un débat qui a été d'ailleurs assez difficile, il y a un mélange de choses tout à fait vraies, importantes qui sont dites, et disons d'impensés ou de points aveugles qui sont tout de même problématiques. Par exemple, la question de la culture de la violence, enfin de la violence de la société haïtienne, de l'immense corruption qui règne, de la faiblesse voulue de l'État, parce que cet État n'est pas si faible que ça par hasard. C'est parce que des cartels, des intérêts privés veulent que l'État soit marginalisé. Tout cela explique pour une large part le fait que Haïti soit devenu une sorte de, je cite, république des ONG, c'est-à-dire où des ONG font à peu près ce qu'elles veulent sans contrôle. Mais s'il n'y a pas de contrôle, c'est pas parce que les ONG veulent y échapper, c'est parce que le contrôle n'est pas exercé. Et cette défaillance de l'État et de la société haïtienne me semble problématique et ne figure pas du tout dans le film. Donc une aide mortelle ou une assistance mortelle,
c'était le titre, oui.
Aurait mérité de traiter ces deux volets, parce que c'est ce qui rend intelligibles les problèmes très réels que pose Raoul Peck dans ce film.
Quittons le terrain terrain haïtien, quittons le terrain en l'occurrence de cet événement de 2010 et quittons même un instant en tout cas cette histoire, ce scandale lié aux abus sexuels à Oxfam, pour vous demander, Ronnie Broman, si on assiste, comme on a pu l'entendre ici ou là, à un rétrécissement de l'espace humanitaire. Comment voyez-vous, vous, aujourd'hui, l'aide humanitaire ? Est-ce qu'elle se porte bien, pour le dire clairement ?
C'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre, parce que se porter bien sur un terrain de cendres ou de décombres, c'est pas vraiment possible. On peut pas se porter bien quand on est dans le malheur, comme c'est le cas pour les organisations humanitaires. Mais disons que la plainte que l'on peut entendre de la part de certaines organisations humanitaires concernant ce rétrécissement est inspirée par, procède largement d'une certaine amnésie ou d'une ignorance de l'histoire ancienne, car l'aide humanitaire, le champ d'action, les territoires d'opération des organisations humanitaires n'ont cessé de s'élargir au cours, disons, du demi-siècle écoulé. Alors, naturellement, dans certains endroits, par exemple au Proche-Orient, en Afghanistan, où il y a un grand nombre d'organisations humanitaires qui travaillent sur le terrain, il y a des régions extrêmement risquées, parce que il y a ici les talibans, là Daesh, à d'autres endroits des groupes djihadistes qui veulent se débarrasser, qui veulent faire des coups, disons. Et quand on frappe une organisation humanitaire, on atteint la presse, et donc on réussit un coup terroriste important. Donc il y a des problèmes de danger, de kidnapping, d'attaque, dans certains endroits qui sont particulièrement exposés au risque terroriste. Mais si on regarde, si on prend un peu de champ et qu'on examine la situation de l'aide en général, non, ce rétrécissement...
Ni plus ni moins qu'avant.
Non. Et même dans une large mesure, le terrain de l'action humanitaire s'est beaucoup plus ouvert. Dans les années 80, par exemple, il y avait beaucoup moins de pays qui étaient accessibles, et lorsqu'on se déployait, c'était à une échelle beaucoup plus réduite.
Il y a un pays que l'ONU qualifie aujourd'hui de pire crise humanitaire du monde, c'est le Yémen. Qu'est-ce qui se passe au Yémen en matière d'aide humanitaire, Ronnie Broman ? 22 millions de Yéménites auraient besoin d'une aide d'urgence. On a un peu le sentiment, vu d'ici, qu'il y a certaines situations qui soulèvent l'indignation et puis d'autres plutôt l'indifférence.
Écoutez, d'abord, je récuse radicalement de toutes mes fibres cette notion de crise humanitaire, comme je dirais que quelqu'un qui se fait tabasser pour des raisons racistes subit une crise des droits de l'homme, ou qu'un viol est une crise gynécologique. Il faut appeler le nom par... Il y a une guerre au Yémen, et une guerre, c'est une guerre. Donc il y a des blessés, il y a des morts, il y a des déplacements de population. Voilà ce qui se passe au Yémen. Il n'y a pas de crise humanitaire au Yémen, pas plus au Yémen que dans le 17e arrondissement parisien. Mais il y a une guerre là-bas. Par ailleurs, je récuse le terme de pire crise humanitaire. Cette échelle dans la souffrance à laquelle procède l'ONU relève d'une stratégie de communication à court terme, parce que demain il y aura une autre première crise, et ailleurs, enfin, c'est absolument sans fin. Et puis dire qu'il se passe des choses plus graves au Yémen qu'en Syrie, lorsqu'on regarde ces deux conflits, on voit que l'un est tout de même relativement contrôlé, avec un nombre de victimes qui est certes toujours à déplorer, mais qui se compte, disons, entre 10 000 et 15 000, de morts, je veux dire, par rapport en Syrie, où on compte les victimes par centaines de milliers. Donc l'ONU veut, et ça je le comprends très bien, attirer l'attention sur le Yémen, mais à faire cette espèce de réclame tapageuse et maladroite, je pense pas qu'ils vont y arriver. Décrivons la situation telle qu'elle se déroule et évitons ces mots qui ne veulent rien dire.
Ronnie Broman, en France, on entendait dans le journal MSF réagit à la circulaire Colomb, les migrants en particulier.
Oui, bien sûr, confondre l'assistance et le contrôle, c'est une tentation qui est permanente dans toute l'histoire de l'assistance, y compris en France, mais c'est une histoire qu'il faut éviter. Il faut éviter de reproduire. On doit dissocier, les contrôles sont normaux, un État a le droit et même le devoir de contrôler un certain nombre de mouvements de population sur son territoire. Lorsqu'on est dans le registre de l'assistance, on doit laisser pour que cette assistance soit correcte, soit moralement décente, soit pratiquement bien distribué, on doit laisser l'assistance à sa propre logique.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Il est 8h30 sur France Culture. C'est l'heure de retrouver Mélanie Chalandon pour la revue de la semaine. Bonjour Mélanie.
Bonjour Caroline.
Vous revenez pour commencer sur une des grandes réformes, même une petite révolution annoncée cette semaine, la réforme du bac.
Et une réforme plutôt bien accueillie pour le moment par les acteurs comme par la presse, et le fait mérite d'être souligné. Jeudi, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, présentait sa réforme et s'est retrouvé à la une de beaucoup de médias. Le ministre est convaincu et convaincant, avouait le Figaro. Le journal y voit un homme qui incarne une certaine idée de l'école, celle de l'uniforme, des dictées obligatoires, des chorales, de la méthode syllabique et surtout de la restauration de l'autorité des professeurs. Alors, le contenu de cette fameuse réforme du bac, si vous l'avez manqué, c'est un bac resserré autour de 4 épreuves, la fin des filières remplacée par un tronc commun et un système d'options et un grand oral pour les élèves fin juin. Je souhaite de tout cœur qu'ils réussissent. Cri du cœur d'une ancienne professeure de lycée lue dans le courrier des lecteurs du journal La Croix jeudi. Elle s'appelle Marthe et estime que Blanquer vise juste en attaquant les défauts de notre système dans un milieu où il ne faut rien remettre en cause. Le journal L'Opinion salue également un homme qui ose s'attaquer à ce monument historique qu'est le bac. Mais attention, prévient le journal, à ne pas se laisser prendre au tournis de la communication. Certains d'ailleurs ne s'en laissent pas compter, quelques voix critiques s'élèvent. L'Humanité s'inquiétait jeudi toujours d'un bel ouvrage en trompe-l'œil dénonçant la parole d'un ministre qui revendique à haute voix l'égalité sociale tout en l'attaquant à bas bruit. Et pour finir, on lira la tribune enthousiaste que publie Libération hier a retrouvée sur leur site. C'est celle de Cyril Delay, professeur d'art oratoire à Sciences Po Paris, qui applaudit l'arrivée d'une épreuve orale au bac. L'oral, c'est inconnu en France, rappelle-t-il, ni valorisé, ni enseigné, ni évalué. Il plaide pour la mise en place d'un véritable oral, celui de l'art de convaincre qui engage le corps et l'expressivité. Ça pourrait être un levier de l'égalité des chances, défend-il, un révélateur de potentiel à condition, bien sûr, de savoir en transmettre la méthode.
Alors, il y a les inégalités scolaires, il y a aussi les inégalités salariales dans le journal Le 1 de cette semaine.
Oui, les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, salaires, les femmes au rabais. Le 1 qui fait comme toujours la part belle au témoignage. À lire par exemple l'histoire d'Anne Emon, ancienne employée de la grande distribution qui réalise un jour que son binôme, un homme, mêmes études, est payé 24% de plus qu'elle. Lui, il partait en vacances alors que je devais compter le moindre euro, raconte la jeune femme. Mais le pire est venu quand j'en ai parlé à mon chef. Il m'a répondu, la différence entre lui et toi, c'est que lui a du potentiel. Depuis, Anémone a été licenciée, sans réelle cause, selon les prud'hommes qui lui ont donné raison. Elle devrait donc toucher 22 000 euros, un début de réparation. Et pendant ce temps-là, on apprend dans Télérama qu'aux États-Unis, dans le milieu de la mode, on a le droit de ne pas payer les mannequins durant les défilés. On leur donne bien souvent un parfum ou un rouge à lèvres. L'anthropologue qui nous l'apprend, Giulia Mencitieri, s'est immergée plusieurs années dans l'industrie de la mode, deuxième secteur économique en France, où règne une précarité généralisée, celle des stagiaires, des assistants, mais aussi des mannequins, dont la plupart sont endettés auprès de leur agence. Un sacré contraste avec les profits que génère le secteur.
Et on termine avec un focus sur ceux qui se battent contre les abus des grandes entreprises.
Et c'est un long papier à lire dans Le Monde de ce samedi sur les associations et ONG, ces nouvelles bêtes noires des entreprises. On ne compte plus les grands groupes attaqués en justice par ces empêcheurs de tourner en rond, de polluer librement ou de négliger les droits sociaux. Grâce aux retombées médiatiques lors de leurs procès, les associations ont trouvé un moyen efficace de s'attaquer au bien le plus précieux des entreprises, leur image de marque. Objectif, faire bouger leur comportement ou bien la législation. Mais les entreprises ne se laissent pas faire et traînent les ONG devant les tribunaux à leur tour. Dernier exemple en date, le procès mené par Apple contre l'association ATTAC en France. L'Empire contre-attaque. Rares sont les articles qui ont résisté au jeu de mots. La firme tente de faire interdire par la justice les intrusions régulières de militants dans ces magasins qui avaient pris l'habitude de venir dénoncer l'évasion fiscale à grands coups de happening. L'associatif, souligne le sociologue Roger Su, nourrit encore un imaginaire.
C'était la revue de la semaine de Mélanie Chalandon et on retrouve notre invité Ronnie Broman, médecin, ancien président de Médecins Sans Frontières de 82 à 94, aujourd'hui professeur à l'Université de Manchester, essayiste, directeur de la Fondation MSF. Essayiste, vous publiez ce livre « Guerres humanitaires, mensonges et intox » dans la collection « Conversations pour demain ». Nous sommes aujourd'hui, on l'entendait dans le journal de Camille Manière tout à l'heure, le jour du 10e anniversaire de l'indépendance du Kosovo. C'est aussi aujourd'hui le jour du 10e anniversaire de la révolte en Libye. Kosovo et Libye, ce sont deux des trois guerres humanitaires que vous qualifiez comme telles, avec la Somalie notamment, qui était la première guerre humanitaire dans votre livre. Peut-être faut-il revenir sur ce terme même, sur cette notion même de guerres humanitaires que vous ne portez pas dans votre cœur, il faut le dire comme ça, Ronnie Broman.
Non, pas du tout, mais je constate que c'est une formule qui a été employée. Oui. Elle a été employée pour la première fois par la presse, il me semble que c'était Libération qui avait titré... guerre humanitaire ou quelque chose comme ça. J'ai pas fait une recherche du côté des médias, mais j'ai un souvenir très précis de l'emploi de ce terme. Et je l'ai vu revenir à deux reprises, de manière vraiment affirmative. Une fois, c'était le Kosovo, et l'autre fois, c'était la Libye.
La Libye.
Et dans les trois cas, au fond, on peut dire que si on adhère aux motivations qui ont entraîné ces engagements militaires, eux-mêmes débouchant sur une guerre... eh bien, on constate que la motivation, c'était le sauvetage. Donc, après tout, un sauvetage qui se veut à peu près désintéressé, eh bien, ça peut se qualifier d'opération humanitaire. D'où le fait que on peut prendre au sérieux, en tout cas pour la décortiquer, cette notion de guerre humanitaire. Et en rapprochant cela de la déclaration de 2005 des Nations Unies, qui proclame la responsabilité de protéger, la R2P, comme on la nomme en jargon de l'aide internationale, cette responsabilité de protéger, c'est au fond, non pas un nouveau mécanisme, mais une sorte de norme émergente, comme peuvent en parler des juristes, visant à élargir le cadre d'intervention militaire des Nations Unies. On doit se souvenir que les Nations Unies ont déjà, dans leur charte, un mécanisme juridique qui leur permet de s'engager militairement. Ça a été le cas, par exemple, en Corée, dans les années 50, au Congo, en Somalie, en Libye. Et c'est le chapitre 7, donc, qui permet que la force soit engagée pour préserver la paix et la sécurité internationale, qui est la mission primordiale de l'ONU. Avec cet élargissement qui dit « les crimes de masse font partie d'une menace » à la paix et à la sécurité internationale, donc c'est ça l'élargissement dont je parlais. Les rédacteurs de ce document, la responsabilité de protéger, se sont appuyés sur les critères classiques de la guerre juste, tels qu'ils ont été formulés par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Et j'ai été frappé par la permanence de ces 5-6 critères qui permettent, selon saint Thomas d'Aquin, de distinguer la guerre juste de la guerre qui doit être évité, c'est-à-dire la guerre de dynastie, la guerre qui ne regarde que le monarque. Et donc, saint Thomas d'Aquin a introduit, avec la notion de guerre juste, la notion de guerre injuste. Et je trouve que cette distinction est très intéressante. En tout cas, elle est intéressante lorsqu'on n'est pas un pacifiste.
Ce qui n'est pas votre cas, en effet.
Ce qui n'est pas mon cas, en effet.
Un pacifiste radical, disons,
oui,
résolu disons ou intégral.
Je suis de plus en plus pacifiste, je dois dire, mais je n'arrive pas à être totalement pacifiste. Je continue de penser qu'il y a des situations où l'emploi de la force est moins immoral que le non-emploi de la force.
Alors tout à l'heure, Ronnie Broman, dans le journal, vous avez expliqué en quoi, pour vous, la guerre au Kosovo était une guerre justifiée, mais non juste. En quoi l'intervention en Libye était-elle du même ordre? Est-ce que vous seriez d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de son déplacement à Tunis, qui a critiqué l'intervention en Libye en disant « l'idée qu'on règle la situation d'un pays de façon unilatérale et militaire est une fausse idée ».
Ah oui, moi, ça n'est pas tous les jours que ça m'arrive, mais ça a été du baume au cœur d'entendre le président Macron prononcer cette phrase. Enfin, une remarque de bon sens sur le fait que le monde n'est pas fait que de clous et que, par conséquent, le marteau n'est pas l'unique outil avec lequel on aborde les problèmes de ce monde. Un problème politique ne se règle pas à coups de bombardier. Et ça, semble-t-il, un grand nombre d'éditorialistes de la presse française, un grand nombre d'intellectuels, une bonne partie de la société française semblait l'avoir oublié. On l'a très clairement en tête lorsqu'il s'agit des Américains. Tout le monde rigolait ou hurlait à la catastrophe, d'ailleurs, dans un même mouvement, lorsque les Américains, sous la présidence de George Bush, ont attaqué et envahi l'Irak. Ça manifestait dans les rues, on se moquait d'eux, leur naïveté, leur manque d'imagination, leur mensonge absolument énorme. On se rappelle le tube de charbon, bacille de charbon que Colin Powell avait exhibé à la table du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était la risée générale. Eh bien, nous avons fait en France exactement la même chose, à une plus petite échelle, nous ne sommes pas l'Amérique, un plus petit pays, une plus petite intervention, mais du point de vue à la fois des mensonges et des conséquences, ce qui n'est quand même pas rien, C'est exactement la même chose. Nous avons semé le désastre dans ce pays et nous l'avons fait à partir d'une série de mensonges qui, pas plus qu'aux États-Unis, n'a été considéré comme tel par la presse française. Rappelez-vous l'enthousiasme martial des éditorialistes qui chaque matin nous appelaient pratiquement au son du clairon à défiler derrière nos troupes pour les soutenir en Libye. J'en garde un souvenir épouvantable parce que pour quiconque était un opposant à cette guerre, se voir envahi par cette propagande, les médias sont devenus des instruments de propagande à l'époque. Les médias nous, en quelque sorte, nous mobilisaient au service de la guerre. Et personnellement, quand je vois des médias commencer à mobiliser les masses, je m'inquiète. C'était vrai, d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de le dire dans le cours d'une controverse qui avait été assez vive au moment du tsunami, c'est-à-dire même pour une catastrophe naturelle, je trouve que les médias doivent nous informer et pas nous mobiliser. C'est une distinction absolument essentielle. Déjà, moi, j'avais parlé de totalitarisme médiatique quand on cherche à nous mobiliser. Je ne dis pas qu'on vit dans un régime totalitaire, hein, ne surinterprétons pas. Mais disons, c'est un pas vers ce genre de situation. Et en Libye, ça a été absolument catastrophique. Et ce que j'attends personnellement aujourd'hui, au-delà d'une éventuelle autocritique de ceux qui soutenaient avec enthousiasme et parlent aujourd'hui de désastre, sans voir la contradiction qui est en leur sein, mais ce que j'attends surtout, de façon plus sérieuse et plus politique, c'est une commission d'enquête ou une mission d'information parlementaire qui fasse enfin le point sur les énormes mensonges, sur l'espèce d'engrenage effroyable dans lequel ces mensonges ont entraîné notre pays et surtout la Libye. Les Anglais l'ont fait, ils ont fait un rapport remarquable qui a été accueilli avec beaucoup de condescendance en France, du French bashing, comme maintenant, pour disqualifier ça, on se met en position de victime. Non, c'est un rapport très sérieux qui mériterait d'avoir une réplique en France.
Mais de la même façon, Ronnie Broman, que les recours dont vous parliez sur les dérives de l'humanitaire dans la première partie de cet entretien, l'idée c'est qu'on ne peut pas y échapper. L'idée c'est qu'il y aura toujours des guerres basées sur de l'intox et sur des mensonges. Comment s'en prémunir? Parce que la mission d'enquête dont vous parlez, bon, elle arrive après. Est-ce qu'il y a une possibilité d'éviter avant qu'on aille s'embourber dans des guerres comme celle-ci?
Je ne sais pas, je ne prétends pas avoir la solution qui permettrait d'éviter
les guerres. Saint Thomas d'Aquin.
Voilà, mais par exemple, relisons Saint Thomas d'Aquin, mais je ne compte pas sur un État quelconque pour rompre avec la tradition qui est que la guerre, c'est le mensonge. On connaît ce vieil aphorisme, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et cela, c'est vrai que l'on soit en régime démocratique ou en régime dictatorial.
Il n'y a pas de guerre, juste dites-vous, il n'y a que des faux prophètes.
Voilà, exactement. Et on pourra mettre des noms sur ces faux prophètes comme on veut. Mais en revanche, je pense que faire ce que, disons, les militaires appellent un retour d'expérience, revenir sur une situation, l'examiner, voir à la lumière des développements ultérieurs comment on s'est comporté, ça permet de s'équiper intellectuellement mieux pour les situations à venir. Parce que ce n'est pas le fait que la France est mentie, quoique il y a quand même un problème, parce que déclencher une guerre sur des mensonges, ça mérite tout de même d'être sanctionné, enfin, d'être revu. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'éliminer un maître chanteur? Parce qu'après tout, l'assassinat de Kadhafi, qu'aucune réalité militaire ne justifiait, reste tout de même une énigme. Pourquoi est-ce que Kadhafi a été assassiné alors qu'il était en train de fuir dans un convoi non armé et qu'il a été attaqué par une escadrille aérienne et tué sous le regard des forces spéciales françaises? Il y a tout de même là un problème qui mériterait d'être éclairci.
Nous n'allons pas rester sur la Libye. De toute façon, dans le livre, tout un chapitre est consacré à la Libye avec toutes les questions que vous pose Régis Mérand, qui anime la conversation avec vous. Donc des questions, des contradictions, des questions qui fâchent également, et vous y répondez très largement. Je voudrais juste vous poser une question sur une situation aujourd'hui, sur un pays aujourd'hui qui pose problème parce que, d'ailleurs qui vous pose problème également parce que vous ne savez pas bien comment vous positionner. C'est la Syrie, bien entendu. La Syrie, depuis quelques semaines en plus, le quartier de la Ghouta orientale à Damas est pilonné, 250 morts en quelques jours. On parle à nouveau d'armes chimiques. Mardi, à nouveau, le président de la République a parlé de ligne rouge. Il n'a pas exclu une intervention de la France si les preuves d'utilisation d'armes chimiques étaient données. Ce qui rappelle d'ailleurs un autre discours qu'on a connu, celui d'Obama en 2013 à propos des armes chimiques. Est-ce que les armes chimiques, qui étaient pour vous déjà en 2013 une ligne effectivement infranchissable, le sont encore? Et dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui face à la Syrie ?
Dans cet état d'esprit, disons dans cette perplexité que je décris dans le livre, j'étais un enthousiaste des manifestations politiques, des grandes démonstrations, des grandes marches du vendredi que l'on voyait en Syrie entre 2011 et 2012, c'est-à-dire pendant une année, le peuple syrien descendait dans la rue, se regroupait, faisait masse et menaçait le pouvoir syrien. Il le menaçait politiquement et avec un courage qui forçait l'admiration, car il y avait des snipers, il y avait des attaques diverses, mais il y avait une résistance collective que je trouvais absolument admirable. Et puis, il y a eu un changement de stratégie. En 2012, je pense que c'était exactement ce que voulait le régime, et c'est malheureusement ce qu'une partie de la rébellion a décidé de faire. On est passé de la manifestation politique à la tentative de renversement militaire du pouvoir. Donc il s'agissait d'ébranler un pouvoir pour le démocratiser, il s'est agi ensuite de le renverser pour le remplacer. Et là, avec ce passage à la forme violente, ce sont les plus radicaux qui ont pris le pouvoir. Les boulangers, les professeurs, les artisans qui défilaient dans la rue, qui pour certains ont pris des armes, n'étaient pas de nature à se mettre en concurrence avec des djihadistes qui venaient d'Ouzbékistan, d'Afghanistan, d'un peu partout, qui avaient déjà l'expérience du combat, qui savaient manipuler des armes, qui avaient des moyens. Et donc ce sont les radicaux qui ont pris le pouvoir.
Et aujourd'hui ?
Et aujourd'hui, donc, on a un gouvernement qui est un gouvernement criminel, qui est l'ennemi de son peuple, comme l'a dit très justement à nouveau Emmanuel Macron, et on a une rébellion qu'on n'a pas envie de voir arriver au pouvoir. Donc on est devant une situation qui est pour l'instant verrouillée. Alors il faut saisir toutes les occasions qui se présente de trouver une médiation. Il n'y a pas 36 possibilités de sortir d'un conflit. L'écrasement de l'adversaire, un compromis entre les deux, ou bien une solution de tutelle, un compromis politique induit par l'extérieur. C'est dans ces deux possibilités-là qu'il faut chercher. Et aujourd'hui, c'est plutôt la Russie qui a l'initiative. Eh bien, je pense qu'il faut soutenir les efforts russes pour rapprocher les acteurs de ce conflit.
Et mercredi, un convoi humanitaire est arrivé dans la Ghouta. C'est au moins une bonne chose.
Ben c'est toujours mieux que rien.
Allez, il est 8h47 sur France Culture. On enchaîne avec le dernier quart d'heure de ces matins du samedi. Ronnie Broman, restez avec nous. On enchaîne avec l'idée culture. Chaque samedi, c'est une personnalité du monde des idées qui nous confie son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marquée, Mélanie, aujourd'hui.
Eh bien, c'est un mathématicien aujourd'hui, Alain Cohn, professeur au Collège de France, médaille Fields, un grand mathématicien français. Et puis d'ailleurs, on a beaucoup parlé
comme
de
quoi,
maths.
Il n'y a pas que Villani cette semaine.
Non, il n'y a pas que Cédric Villani.
En France.
On parlait pas mal de maths cette semaine, bah justement à l'occasion du rapport de Cédric Villani lundi sur des propositions pour améliorer l'apprentissage des mathématiques. Alors l'œuvre dont nous parle Alain Cohn, eh bien c'est une œuvre qui l'a marqué très récemment finalement dans sa vie. Elle est d'ailleurs même à l'origine du livre qu'il vient de publier qui s'appelle Le Spectre d'Atacama aux éditions d'Il Jacob. Il est coécrit avec Dany Chéreau et Jacques Dixmier. On l'écoute.
Alors mon choix s'est porté sur une œuvre posthume d'Olivier Messiaen qui est son traité de rythme, de couleur et d'ornithologie. Donc en fait c'est presque un résumé de son œuvre de musicien, de compositeur, d'ornithologue, de rythmicien surtout. C'était un fanatique du rythme. C'est quelqu'un qui a passé sa vie musicale à explorer le rythme sous toutes ses formes. C'est une œuvre très extraordinaire parce qu'il y a peu d'œuvres de cette qualité, surtout intuitives. C'est-à-dire, c'est pas une œuvre analytique trop précise, etc., mais c'est une œuvre d'une richesse poétique et d'une richesse d'innovation qui est absolument incroyable. Et elle s'ouvre dans le premier tome sur un discours autour du temps. Il analyse le temps sous toutes ses formes. Il parle du temps de l'univers, il parle du temps des oiseaux, il parle du temps de la nature, il parle du temps du quantique, de la physique microscopique, etc. Donc, je veux dire, il a une richesse de pensée qui est très très surprenante. Et en fait, c'est un livre dans lequel on peut puiser une inspiration. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'on a pénétré en fait dans ce livre à l'occasion de l'écriture d'un livre qui vient de paraître chez Odile Jacob, que nous avons écrit Dany Chéreau, Jacques Dixmier et moi-même, et qui s'appelle Le Spectre d'Atacama. Et à l'occasion de l'écriture de ce livre, nous avons en fait pénétré dans l'univers de Messiaen et nous avons compris une relation absolument inattendue, quelque chose d'extraordinaire entre des concepts que lui avait introduits et le monde mathématique. Au point que finalement, j'ai fait une composition musicale qui est basée sur les mathématiques et qui est exactement dans le style de Messiaen, mais avec un substrat mathématique qui est extrêmement surprenant et qui est relié à ce qu'on appelle les motifs de Grothendieck, qui donnent des interprètes rythmiques d'une musique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que en tant qu'interprète rythmique, il vérifie, il obéisse exactement à la loi que Messiaen avait introduite et qu'il appelait les rythmes non rétrogradables. Alors en fait, Messiaen était atteint de synesthésie, c'est-à-dire qu'il avait une correspondance naturelle entre les couleurs et la musique. Si vous voulez, en mathématiques, ça joue un rôle, ça, c'est ce qu'on appelle la musique des formes, c'est-à-dire qu'on peut percevoir une forme par une gamme musicale, par sa musique. Et il a aussi écrit un texte remarquable, toujours dans le même livre, hein, bien sûr, je parle de ce livre. Donc il dit par exemple, « J'ai été personnellement beaucoup plus influencé, donc c'est Messiaen qui parle, dans ma musique, par la magie des couleurs en peinture et par l'art du vitrail. Le côté arc-en-ciel, malgré le bleu ou le violet prédominant, les grands roses des croisillons nord et sud de Notre-Dame de Paris, de l'arbre de Jessé de la cathédrale de Chartres, des immenses vitraux de la Sainte-Chapelle. Et certainement à l'origine de certains rythmes et modes employés dans mes œuvres. » Il faut savoir que, bien sûr, Messiaen était organiste et il a été professeur au Conservatoire de Paris jusqu'à 1978. Donc ce livre, c'est une espèce de testament musical. C'est un livre qui contient énormément de choses. Donc je le conseille à toute personne qui veut s'enrichir.
Même si on n'est pas musicien ou mathématicien ?
Même si on n'est pas musicien ou mathématicien. Pourquoi ? Parce que précisément, il n'est pas confiné à la musique. Le début, c'est de la poésie pure.
Et si on veut entendre Alain Cohn poursuivre ses réflexions sur les correspondances entre mathématiques et musique, eh bien, je vous conseille d'écouter la conversation scientifique aujourd'hui sur France Culture à 16h où il sera reçu par Étienne Klein.
Voilà, les liens entre musique et mathématiques n'ont plus de secret pour vous,
ils en conservent quelques-uns, mais... Enfin, moi, je ne sais pas bien parler de musique, je n'écoute pas assez de musique, j'aime ça, mais bon, le temps manque et je n'ai pas de grande connaissance de la musique. J'ai écouté un peu d'Olivier Messiaen dans ma jeunesse, mais c'est surtout Alain Cohn qui m'émerveille. Je dois dire, j'ai déjà lu et entendu Alain Cohn et je trouve qu'il parle admirablement des choses qu'il aime et qu'il pratique.
Et Alain Cohn, avec ses liens entre les mathématiques et la musique, pourrait aussi inspirer et intéresser un compositeur contemporain qui est Pascal Dussapin, à qui la Philharmonie de Paris rend un hommage aujourd'hui et demain tout le week-end. Vous pouvez vous y rendre si vous êtes parisien.